Bienvenue dans le podcast RSE de Dalkia. Ravi de vous accompagner pour un décryptage de la stratégie RSE et de ses grands enjeux. Bonjour Nathalie Nata.
Bonjour.
Vous êtes directrice RSE de Dalkia. Pour introduire cette série de podcasts, je vous propose d'abord que l'on regarde votre politique RSE dans sa globalité. D'abord, quelles sont vos ambitions ?
Notre politique RSE est très forte. Elle est au service de notre ambition, c'est-à-dire accompagner nos clients dans la transition énergétique. Nous développons des solutions innovantes, bas carbone, durables, qui leur permettent effectivement de réduire leur empreinte carbone. Et cette ambition-là, elle se formalise dans un projet stratégique, Cap 2026, dont les axes sont la décarbonation, la performance et l'engagement.
Très concrètement, comment ces ambitions vont-elles se traduire pour vos collaborateurs comme pour vos clients ?
Alors, elles se traduisent de manière très concrète, hein, par des engagements chiffrés entre 2022 et 2026, des objectifs de progrès dans nos engagements RSE. C'est aussi un manifeste qui explique de manière très simple nos métiers, nos activités, leur impact sur l'environnement, sur la société, sur les parties prenantes, car nous avons besoin effectivement de faire de la pédagogie sur nos activités, mais aussi de fidéliser et d'attirer des talents.
Pour votre politique RSE, vous avez identifié quatre piliers qui sont détaillés dans quatre podcasts, hein, que je vous invite tous à écouter. La neutralité carbone, la préservation des ressources de la planète, le bien-être et la solidarité, et le développement responsable des territoires. Pourquoi ces quatre grands enjeux ?
Ces enjeux sont clés, c'est le socle de notre stratégie RSE. Le premier pilier, c'est la lutte contre le réchauffement climatique et la diminution des émissions de CO2. C'est le métier de Dalkia depuis 80 ans. Nous accompagnons nos clients dans deux grandes activités, la sobriété énergétique, les économies d'énergie et le développement des énergies renouvelables.
Le deuxième, la préservation des ressources de la planète. Une évidence là peut-être ?
Les ressources ne sont pas inépuisables, nous l'avons vécu cet été et nous attachons à maîtriser nos impacts sur l'environnement, comme par exemple pour la biodiversité.
Le bien-être et la solidarité, c'est l'humain, là ?
C'est l'humain, c'est la richesse de Dalkia. Notre capital le plus précieux, ce sont nos collaborateurs et nous voulons avant tout préserver leur santé, leur sécurité et faire en sorte qu'ils s'épanouissent dans l'entreprise.
Et puis un mot du dernier, développement responsable des territoires.
Oui, l'activité de Dalkia se concrétise au cœur des territoires. Nous renforçons l'attractivité des territoires et se développer de manière responsable. Ça veut dire simplement avoir un impact économique, social et environnemental positif, qui crée de la valeur pour tout le monde.
Pour chacun de ces piliers, vous êtes fixé des objectifs, un horizon ?
Alors, nos objectifs sont fixés dans le cadre de notre projet stratégique. Et effectivement, entre 2022 et 2026, nous avons défini des axes de progrès en matière de climat carbone. Nous souhaitons effectivement réduire les émissions de CO2, les nôtres et celles de nos clients. Grâce à nos solutions, nous souhaitons passer de 4 à 6 millions de tonnes de CO2 évitées par an. En matière de préservation des ressources de la planète, nous souhaitons limiter notre consommation en eau à hauteur de 10%. Nous souhaitons aussi faire en sorte que nos collaborateurs et de nouveaux collaborateurs nous rejoignent, donc attirer plus d'alternants, les embaucher, mais c'est aussi attirer plus de femmes. Donc nous avons fixé des objectifs clairs et ambitieux sur ce domaine. Et pour finir, pour illustrer nos engagements en matière de développement responsable, on peut dire par exemple que c'est maintenir au moins 30% de nos achats auprès de PME locales qui nous accompagnent dans nos projets de sobriété énergétique au cœur des territoires.
Dernière question, Nathalie Nata, ce que vous proposez à vos clients en matière de performance énergétique ou de diminution de l'empreinte carbone notamment, est-ce aussi appliqué chez vous en interne, chez Dalkia ?
Nos collaborateurs sont force de proposition, ils sont moteurs et nous avons donc plusieurs initiatives, notamment l'ambition d'électrifier notre parc de véhicules. Dalkia, c'est plus de 10 000 véhicules et donc une électrification du parc d'ici 2030. Nous avons aussi décidé de réduire nos propres émissions de CO2 à hauteur de 10% entre 2022 et 2026. Et nous avons aussi travaillé sur la sobriété numérique, un sujet clé, et je peux vous donner deux exemples. La sobriété numérique, c'est dans les solutions que nous proposons à nos clients, avec des installations pilotées à distance, dont on analyse le comportement 24 heures sur 24 pour éviter les dérives, pour informer nos clients et afin qu'ils maîtrisent encore mieux leur facture énergétique. c'est aussi moins de déplacements pour nos techniciens. Mais nous avons aussi appliqué ce principe de sobriété sur nos propres usages, à savoir notre site internet qui a été complètement repensé et qui permet aujourd'hui une réduction de 64% de CO2 par rapport à sa version précédente.
Voilà, la frugalité numérique, c'est sur ces mots que l'on termine. Merci beaucoup Nathalie Natta.
Merci.
Bonjour Céline Lorrain.
Bonjour Aurélie.
Vous êtes directrice des ventes. Avec vous, nous allons parler de neutralité carbone et climat. C'est l'un des quatre piliers de la stratégie RSE de Dalkia. La décarbonation, c'est évidemment un axe majeur de l'engagement de votre groupe. Comment agissez-vous concrètement ?
Alors, diminuer l'empreinte carbone de nos clients, c'est vraiment le cœur de métier de Dalkia. À titre d'illustration, en 2021, nous avons permis d'éviter 4 millions de tonnes de CO2 émises chez nos clients. Et ce, grâce à deux axes qui composent la décarbonation. D'abord, l'efficacité énergétique. Ensuite, le verdissement avec les solutions qu'on implémente. Le premier axe, l'efficacité énergétique, c'est des travaux qui vous permettent de baisser vos consommations dans la durée. Et idéalement, on va d'ailleurs pouvoir les encapsuler dans des contrats où on va garantir cette baisse de consommation. Mmh. Et puis, le verdissement, en fait, on va l'étudier au cas par cas. Ça va être, par exemple, des réseaux de chaleur. Ça peut être des chaufferies biomasse, des pompes à chaleur, etc.
Alors, pour illustrer ce dont vous nous parlez à l'instant, est-ce que vous avez quelques exemples à nous citer ?
Alors, sur l'efficacité énergétique, ça va être des contrats de performance énergétique. Ça, c'est un outil qui est très vertueux. On va faire des travaux, on va piloter à distance les installations de manière efficace et instantanée. Et puis derrière, on va pouvoir garantir les baisses des consommations qu'on avait prévues, ce qui permet d'aller embarquer des ambitions de baisse de consommation de 5, 10, 15, voire 40% d'économie d'énergie.
Sur le deuxième axe, un exemple également ?
J'aimerais insister, c'est le sujet des réseaux de chaleur. C'est un sujet encore assez mal connu en France, et pourtant c'est en plein développement, puisqu'en France, c'est l'outil le plus efficace et vertueux pour décarboner la chaleur. Et donc l'outil des réseaux de chaleur est un outil qui permet de produire de la chaleur de manière importante, souvent en majorité verte, et ensuite on la distribue à des quartiers entiers. Et ça, c'est vraiment un outil qui permettra dans l'avenir d'aller décarboner le plus facilement toute cette chaleur que nous utilisons au quotidien. Et c'est largement soutenu aussi par les pouvoirs publics. On a un espèce d'alignement des planètes sur ce sujet-là qui devrait très massivement se développer dans les années à venir.
Céline, pouvez-vous aussi nous expliquer cette notion de CO2 évité qui est comptabilisée dans vos engagements ?
Alors oui, le CO2 évité, donc je vous disais tout à l'heure, 4 millions de tonnes de CO2 que nous avons évité chez nos clients en 2021. Nous partons d'une situation de référence. Un client a une situation de référence aujourd'hui par rapport à son activité. Eh bien, il a un impact carbone, un coût carbone et un impact carbone. Et sur cette situation-là, nous arrivons en lui faisant économiser de l'énergie, en faisant du verdissement. Et ça, ça lui permet d'émettre moins de CO2. Et c'est ce delta-là qu'on va appeler le CO2 évité.
Et en interne, est-ce que là aussi, des actions sont mises en œuvre pour réduire l'impact sur l'environnement ?
Oui, alors évidemment, nous travaillons à être exemplaires par rapport à ces axes de décarbonation. Alors déjà, on a un engagement 2026 de baisser de 10% nos émissions de CO2. Et puis surtout, ça c'est un engagement central, mais ce que je trouve très important de souligner, c'est qu'on a énormément d'initiatives à tous les niveaux, par les salariés aussi, pour mettre en place des idées nouvelles qui permettent de réduire notre empreinte CO2.
Vous agissez aussi sur le financement des solutions, de quelle façon ?
Il faut savoir déjà qu'en France, on a une administration qui est très proactive pour accélérer justement le développement de toutes ces solutions de décarbonation. Et nous sommes particulièrement affûtés sur ce sujet parce que l'articulation de tous les dispositifs est un peu complexe. Donc notre devoir est vraiment de savoir conseiller nos clients pour trouver les meilleures optimisations pour accélérer cette décarbonation. On peut souligner deux axes qui font d'ailleurs écho aux deux axes que je citais au départ. Sur l'efficacité énergétique, il y a un dispositif qui s'appelle les certificats d'économie d'énergie. L'intérêt pour un client, c'est que il va diminuer son investissement grâce à ce dispositif et ensuite il fait des économies d'énergie dans la durée. Donc là, c'est vraiment un double bénéfice. On a vraiment envie d'y aller, exactement. Et puis après, sur la chaleur renouvelable, il faut tirer un coup de chapeau à l'agence qui donne les subventions, qui s'appelle l'ADEME, qui est très promotrice de toutes ces solutions et qui évolue en permanence pour tenir compte des nouveaux contextes et faire en sorte que la décarbonation avance toujours plus vite.
Merci Céline Lorrain.
Merci à vous.
Bonjour Emmanuel Boone.
Bonjour.
Vous êtes directeur technique des grands projets chez Dalkia. Avec vous, nous allons parler de la préservation des ressources de la planète, qui est l'une des priorités de votre groupe, un des quatre piliers de la stratégie RSE. Être éco-responsable, ça passe par quoi chez Dalkia ?
Être éco-responsable, c'est tout d'abord respecter au maximum la nature et l'environnement. et ce qui passe par des offres concrètes de Dalkia. Ça répond notamment à une demande grandissante de nos clients, quels qu'ils soient, habitat, collectivité, tertiaire et industrie.
C'est inscrit dans l'identité même de Dalkia ?
Ah oui, je dirais que chez Dalkia, c'est totalement dans notre ADN de proposer des solutions éco-responsables. Concrètement, sur l'aspect énergie, nous avons deux grands leviers, par exemple. Le premier, c'est faire en sorte que les installations consomment moins d'énergie. C'est l'aspect sobriété. Le deuxième, c'est faire en sorte que ces énergies soient le plus décarbonées possible. On parle d'énergie renouvelable et de récupération, c'est l'aspect durable. Quelques exemples, on a le bois énergie, on parle ici du bois non utilisé et non valorisé par la filière forestière, qui elle produit du bois d'œuvre et du bois d'industrie. On est sur la partie en fait résiduelle de l'exploitation forestière et de l'entretien des forêts. On a la géothermie, la thalassothermie, là on est sur l'eau de mer, sur les villes côtières. Et puis, sujet de plus en plus prégnant, la chaleur fatale des industriels, comme à Charleville-Mézières, où nous récupérons en fait de la chaleur sur l'usine PSA, ou à Issoire, où on récupère de la chaleur sur l'usine Constellium, dans les deux cas pour alimenter le réseau de chaleur de la ville.
On dit un mot du solaire ?
Le solaire, on retrouve le solaire thermique et photovoltaïque. Ce qui est aussi important, c'est qu'à chaque fois, on est sur des technologies performantes pour respecter en fait, en termes de rejet dans l'atmosphère, des normes environnementales qui sont très strictes.
Autre priorité, la protection de la biodiversité. Expliquez-nous là aussi ce que ça signifie très concrètement.
Lorsque nous concevons puis mettons en œuvre des installations, par exemple une chaufferie, des canalisations de réseaux de chaleur, nous réalisons des études d'impact sur l'environnement. Alors ça englobe la biodiversité avec toutes les thématiques de l'environnement. L'air, le bruit, l'eau, les sols, la santé, avec toujours comme principe clé, éviter, réduire, compenser les impacts s'il y en a.
Est-ce que vous avez des exemples à nous donner ?
Oui, bien sûr. En termes d'exemples concrets, d'anecdotes, nous avons été amenés sur le réseau de chaleur de Toulouse à adapter notre planning travaux sur une zone spécifique pour en fait ne pas perturber la nidification d'une espèce protégée qui est l'aigle beauté.
Alors, au-delà de l'énergie, quid de la ressource en eau ?
La ressource en eau est aussi un sujet crucial et d'actualité. On optimise la gestion de l'eau, par exemple, sur nos réseaux de chaleur en limitant les fuites, en utilisant des drones qui permettent d'identifier par thermographie infrarouge les zones de nos réseaux les plus sensibles nécessitant des interventions. Alors cela permet de faire des économies d'eau et comme cette eau est chaude, des économies d'énergie.
Tout cela avec en tête les grands principes de l'économie circulaire, ça aussi c'est l'une de vos priorités ?
Oui, c'est essentiel. Alors l'économie circulaire, c'est quoi ? C'est produire des biens, des services de manière durable en limitant en fait la consommation des ressources et l'impact sur l'environnement. Alors ça passe notamment par utiliser des ressources locales.
C'est-à-dire ?
Pour le bois énergie, on peut citer le fait que l'approvisionnement se fait dans un rayon maximum de 100 km pour bénéficier d'une énergie locale et limiter ainsi l'empreinte carbone. Le bois énergie, on l'a évoqué aussi, c'est principalement des sous-produits de la filière bois et donc ça s'inscrit dans un schéma d'économie circulaire sans évoquer le fait que la biomasse, c'est aussi un puits carbone. L'économie circulaire chez Dalkia, c'est aussi par exemple, dans le cadre de nos travaux de réseau, le réemploi de matériaux excavés pour éviter leur mise en décharge et tout simplement le recyclage de nos équipements du quotidien, les smartphones, les ordinateurs. Et pour une entreprise de 19 000 collaborateurs, eh bien, ce n'est pas anecdotique.
Merci beaucoup Emmanuel Boone.
Merci.
Bonjour Gloria Philippe.
Bonjour.
Vous êtes responsable du pôle développement des compétences et de la diversité, plus particulièrement du label diversité chez Dalkia. Parmi les engagements de votre groupe, l'un est intitulé « Bien-être et solidarité ». Très concrètement, ça veut dire quoi ?
C'est s'assurer que nos collaborateurs soient vraiment bien dans l'entreprise, qu'ils s'épanouissent, qu'ils développent leurs compétences. C'est favoriser l'égalité, la diversité.
Voilà, être bien dans son travail, la qualité de vie au travail est très important. Vous avez pris plusieurs engagements pour 2026. Parmi ces engagements, faire passer votre taux de fréquence accident de 5,2 à 2, le diviser de plus de moitié. Comment allez-vous vous y prendre ?
Nous visons le zéro accident. Pour cela, nous impliquons bien entendu les équipes managériales. Nous sensibilisons également nos sous-traitants à notre démarche sécurité en les faisant participer à nos journées sécurité. Cela implique également de lutter contre les accidents les plus fréquents, avec plus d'analyse des risques sur les sites. Et enfin, de faire évoluer les compétences et les pratiques métiers, par exemple, accueillir sur nos postes de travail 100% de nos nouveaux arrivants.
Alors, je le disais en introduction, vous êtes aussi responsable du label diversité. Qu'est-ce que cela implique, ce label, comme exigence pour l'entreprise ?
que nous sommes labellisés déjà depuis plus de 10 ans. Et ce label, ben, il reconnaît nos valeurs que sont la solidarité, l'engagement et la responsabilité. Cela implique de mettre en place de nombreuses actions en faveur de l'handicap, de l'alternance, de la mixité, de l'insertion. Par exemple, nous avons mis en place des partenariats avec des GIEC, qui sont des groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification, afin de former des personnes en situation de handicap ou bien des publics éloignés de l'emploi.
Gloria Philippe, nous sommes dans un contexte évidemment très particulier. Le secteur de l'énergie est un marché sous tension. Comment s'adapter dans ce contexte, en matière de recrutement notamment ?
Cela nous oblige à recruter autrement. Dalkia a une vraie culture de l'alternance, qui nous permet de former chaque année près de 500 alternants à notre métier de technicien d'exploitation, qui est le métier le plus représentatif chez Dalkia. Ces derniers, à l'issue de l'obtention de leur diplôme, se voient offrir un CDI, et ils sont aujourd'hui près de 70% à connaître cette transformation en CDI.
Autre sujet, Gloria Philippe, qui vous tient à cœur, attirer des talents féminins dans vos métiers. Il y a encore du travail dans ce domaine. Vous avez créé il y a quelques années un prix spécifique. Pouvez-vous nous en dire un mot ?
Nous avons encore trop peu de femmes dans nos métiers, et plus particulièrement dans les métiers énergétiques. Le prix Women's Energy in Transition a été créé justement pour inciter les femmes à rejoindre les métiers et les cursus de formation en lien avec les domaines énergétiques.
Ce prix a été créé il y a 5 ans. Quels sont les résultats ?
L'année dernière, par exemple, nous avons recueilli près de 100 candidatures. Et nous sommes très, très fiers d'avoir récompensé, d'avoir valorisé 12 femmes pour leur parcours remarquable et inspirant.
La nouvelle édition va être prochainement lancée, je crois.
Oui, la nouvelle édition sera lancée le 3 octobre prochain. J'en profite, j'invite vraiment toutes les femmes étudiantes ou en activité dans les domaines de la transition énergétique à postuler à ce prix.
Voilà, le message est passé. Merci beaucoup, Gloria Philippe.
Merci aussi.
Bonjour Solène Lehoux.
Bonjour Aurélie.
Vous êtes responsable des achats en Méditerranée. Avec vous, c'est le pilier développement responsable des territoires que l'on va évoquer. Commençons peut-être d'abord par expliquer ce que ça signifie, se développer de manière responsable.
Se développer de façon responsable, c'est chercher à se développer en ayant un impact économique, social et environnemental positif. Alors concrètement, ça correspond à générer localement de la valeur, de l'attractivité pour le territoire, en créant de l'emploi, en travaillant avec les parties prenantes locales, c'est-à-dire nos fournisseurs, nos sous-traitants, mais aussi nos partenaires commerciaux locaux.
Alors, générer de l'attractivité, est-ce que vous avez des exemples un peu plus concrets à nous donner ?
C'est par exemple, effectivement, co-construire des solutions locales vertueuses et innovantes, des produits plus performants, décarbonés et avec moins de déchets. Nous étudions, par exemple, actuellement, des pistes pour utiliser des fils de traitement d'air rechargeables et non jetables pour éviter à la fois les déchets et gagner en performance. Nous nous orientons donc vers davantage une vision d'économie circulaire, contrairement à une économie linéaire.
Quand on parle de développement des territoires, on parle forcément d'emploi. Ça représente quoi ?
Alors, Dalkia joue un rôle essentiel dans le développement des territoires, où les agences sont implantées puisqu'elles choisissent d'y embaucher. Et c'est plus de 19 000 collaborateurs en France et à l'international, principalement des techniciens. Dalkia contribue également au développement économique durable et soutient l'économie locale puisqu'elle choisit de créer des emplois indirects en travaillant avec des fournisseurs locaux.
Avez-vous quelques chiffres clés à nous donner ?
Oui, alors j'en ai deux principaux. 94% d'achats sont réalisés en France. Le deuxième, c'est que parmi nos fournisseurs référencés, on travaille avec 6800 PME et micro-entreprises.
Solène Lehoux, je crois savoir que vous menez régulièrement des études socio-économiques. À quoi vous servent ces études ?
Alors, ces études sur l'empreinte territoriale sont importantes car elles offrent la possibilité à nos parties prenantes de mieux comprendre les retombées socio-économiques générées par les activités de Dalkia.
Alors, on a envie d'en savoir un peu plus. Quels sont les grands enseignements de la dernière étude ?
La dernière étude souligne que Dalkia soutenait plus de 13 000 emplois directs en France. Et ce chiffre est multiplié par presque 5 si on prend en considération les emplois indirects, c'est-à-dire les emplois soutenus grâce aux achats annuels, tout ce qui concerne la chaîne de valeur, et les emplois induits, c'est-à-dire les emplois soutenus par la consommation des salariés et par les dépenses publiques.
Je vous propose qu'on termine par un mot de vos objectifs, un mot de l'avenir.
Nos objectifs sont clairs, continuer de dialoguer avec nos parties prenantes, maintenir tous ces emplois directs, indirects et induits grâce aux investissements et aux achats de Dalkia. Et enfin, développer les achats locaux auprès des PME et du secteur adapté et protégé.
Merci Solène Lehoux.
Merci à vous.